Bonjour à tous, je m'appelle Renaud Mercier et aujourd'hui j'avais envie non pas de vous conter un mythe, mais plutôt de vous décrire la manière dont s'organisait l'univers après la prise de possession du pouvoir par Zeus, donc l'univers dans la mythologie antique, la mythologie classique. J'ai intitulé ce chapitre La cartographie des mondes. Si Gaïa, en latin Tellus, et Uranos, en latin Caelus, représentaient la terre et le ciel et se confondaient largement avec les parties de l'univers, l'accession de Zeus au trône de l'Olympe sanctionne une césure entre le monde et les dieux anthropomorphes pour beaucoup à qui il obéit. De même, le partage du pouvoir qu'opère Zeus avec ses frères Hadès, alias Pluton, et Poséidon, Neptune, dessine un univers stable et clos qui offre son cadre aux histoires mythologiques qui suivront. Envisageons d'abord l'Olympe. Le mont Olympe, la plus haute montagne de Grèce, culmine à près de 3000 mètres. Son sommet, dissimulé derrière les nuages, passait pour le séjour des dieux. Plus tard, la localisation du palais de Zeus se fit plus floue. Le platonisme aidant, les gens instruits renvoyaient à la demeure des dieux, au plus près des étoiles, bien plus haut que l'aimable chaîne montagneuse. Les dieux y respirent le subtil éther, plus chaud et léger que l'air vulgaire des mortels. L'éther, divinité primordiale et partie de l'univers, abrite la cour de Zeus, qui y donne de somptueux festins. On s'y abreuve d'une boisson fabuleuse, le nectar, et l'on y mange l'ambroisie, nourriture des immortels. C'est là qu'Hélios, en latin sol, le soleil, traverse le ciel et que la nuit brille sa sœur Sélénée, alias Luna, la lune, ainsi que les étoiles. Quelques mots maintenant au sujet de la terre et des mers. Sous l'éther se trouve l'air que nous respirons et qui baigne la terre. Celle-ci est le séjour des mortels et surnage sur la mer. Les anciens connaissent l'Europe, l'Asie et l'Afrique, trois continents entourés par le Titan Océan. Ce dernier a 3000 filles, les Océanides, nymphes d'eau douce, et 3000 fils, les dieux fleuves. Au cœur de la Méditerranée, dans la mer Égée, vit Néré, le vieillard de la mer, fils de Pontos les flots et de Gaïa, son épouse, l'Océanide Doris, qui donnera les Néréides, les nymphes marines. L'une d'entre elles, Amphitrite, épousera Poséidon, qui présidera au destin du monde aquatique. Parlons maintenant du monde souterrain. Le royaume d'Hadès était divisé en plusieurs territoires, on les appelait les enfers. Là se rendaient les âmes des défunts. L'entrée en était surveillée par Cerbère, un chien à trois têtes. On accédait alors à l'Érèbe, où devaient résider pendant 100 ans les âmes de ceux qui n'avaient pas été enterrés selon les rites. Plus loin, trois juges, Minos, Éaque et Radamante, assignaient aux morts un séjour parmi les suivants. Dans le pré de l'Asphodel, les âmes médiocres passent l'éternité dans un ennui morne. Les Champs-Élysées, aux confins desquels se trouve le palais d'Hadès et de son épouse Perséphone, en latin Proserpine, abritent les âmes nobles et les héros. Ils s'y égaient en d'éternels festins et y célèbrent leur gloire passée. Enfin, le Tartare est la région la plus reculée, la plus sombre des enfers. Les grands criminels tels Sisyphe ou Tantale, ainsi que les dieux déchus, y purgent d'éternelles peines. Les enfers étaient arrosés de fleuves dont les sources en surface passaient pour autant d'accès au royaume des morts. Le Styx, dont l'eau procurait l'immortalité, l'Achéron, que les âmes franchissaient sur la barque de Charon pour accéder aux enfers, le Cocyte, affluent de l'Achéron, avec lequel il arrose les rêves, le Phlégéton, autre affluent de l'Achéron, charriant des flammes autour du Tartare, et le Léthé, le fleuve de l'oubli. Quelques petits détails pour compléter ce tableau. Les latins Virgile dans l'Énéide, chant 6, et Ovide dans les Métamorphoses, chant 10, narrent respectivement les descentes aux enfers d'Énée et d'Orphée. Ces récits sont l'occasion d'impressionnantes descriptions du royaume de Pluton. Pour Virgile, Anchise, le père du héros troyen aîné, veillait à ce que les âmes fussent lavées dans les eaux du Léthé avant de repartir vers la surface pour d'autres vies. Par ailleurs, les catalogues de divinités secondaires constituèrent un exercice de style pour les auteurs anciens. Ainsi, Hésiode dresse-t-il dans sa Théogonie des listes de dieux fleuves ou d'océanides. Le latin Virgile s'y adonna aussi, mais dans une moindre mesure, à l'instar du pseudo-Apollodore dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler précédemment. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous rencontrer prochainement de nouveau pour de nouvelles histoires. À bientôt.